Radio Foot International. CAN Total, Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Aujourd'hui, première édition, il y en aura une deuxième et une deuxième qui devrait durer plus longtemps, a priori. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous croyons. Cette édition, en tout cas, vous pouvez la voir, la suivre non seulement à la radio, mais aussi sur le Facebook Live. Vous en avez pris l'habitude. Je vais vous présenter tout de suite nos invités parce qu'ils sont là et que maintenant que l'image nous trahit, je suis obligée de vous les présenter. Alors aujourd'hui, on a invité un lion. Il est tout sourire pour l'instant. Bonjour Habib.
Bonjour, Bey. Ça va. Un finaliste. Les autres lions sont rentrés.
Oui, c'est le seul qui reste.
Je vise personne.
Je te comprends pas.
Ça va, mon Rémi?
Ah, ça va très bien, sauf que. Bon, je te
bonjour
souhaite bonne
Rémi
chance.
Ngono.
Je te souhaite bonne chance pour qu'enfin. Merci. Un lion puisse manger quelque chose parce que chaque fois vous vous léchez toujours les babines.
Merci.
Un lion de la Teranga et un lion indomptable. Bonjour Rémi Ngono, Xavier Barré est là, bien sûr, pour vous donner la réponse.
Bonjour Xavier. Bonjour à tous.
Et puis Frédéric Suteau qui est rentré du Caire et qui donc participe.
Nous aussi, on est en finale. RFI est en finale.
Exactement. Super. Nous aussi, Radio Foot. Donc tout le monde est en finale. C'est une belle journée. Et justement, le jour J est arrivé, le jour de cette finale de la CAN, une finale inédite opposant le Sénégal et l'Algérie. Qui ramènera la coupe à la maison, la coupe à la case ou la coupe à la casbah? C'est ce qu'on peut demander à 7h, on saura ce soir. Mais qui est le favori de cette confrontation entre des lions de la Teranga qui veulent figurer pour la première fois au palmarès continental majeur et des fennecs portés par un peuple en ébullition? Les clés de la finale, tout de suite dans votre émission et avant le grand frisson, avant le coup d'envoi. Des lions et des fennecs, mais d'où vient cette passion africaine pour affubler ces équipes nationales de surnoms d'animaux sauvages? Serait-ce pour se donner des forces ou alors un cri du cœur, qui sait, pour sauver la faune menacée du continent africain? Enfin, qu'est-ce qu'une finale inoubliable, mémorable? Nous interrogerons, eh bien, un roi de la CAN, en tout cas un roi de la CAN pour nous ici à RFI. Un indice, il a 14 finales à son compteur. Alors suspense, mais vous l'entendrez à la fin de cette émission. Radio Foot, c'est parti.
Tibou la coupe à la maison. Allez les verts, allez, 29 ans c'est le moment. Allez les verts, allez, Tibou la coupe à la maison. Allez les verts, allez, El Khatra un champion. Majem El Belmadi.
Amenez la coupe à la maison.
Allez les lions,
c'est sympa, Habib, non?
C'est très sympa.
Rémi, ça vous a fait rire aussi. Hein. Pour ceux qui nous regardent en Facebook Live, il y a des...
J'ai une préférence pour la deuxième.
Il y a des clips. Il y a des clips qui illustrent cette chanson. Vous le savez, cette chanson a accompagné l'équipe de France l'année dernière lorsqu'elle a gagné et ramené la coupe à la maison. Eh bien là, il y a une version donc pour les Verts, pour les Fennecs, bien sûr, et puis une version pour les Lions. Malheureusement, une seule coupe pour deux équipes, une confrontation donc, je vous le disais tout à l'heure, inédite. Cette finale, Sénégal-Algérie, n'a jamais eu lieu en 31 éditions de CAN. Et cette affiche, eh bien, déchaîne les passions à Dakar, comme à Alger, et dans toutes les villes et bourgades de ces deux pays. Bien au-delà aussi en France, où les deux nations sont très fortement représentées par des émigrés, mais aussi leurs descendants, et plus généralement à travers le monde. Donc il y a des représentants de ces deux nations un peu partout. D'ailleurs, on le voit sur notre page Facebook parce qu'on nous écrit vraiment de partout sur la planète. Et puis, il y a des raisons aussi autour de cette finale. Le contexte qui font que ce match est un peu plus qu'une finale. Écoutons Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Et il résume très bien ce contexte particulier.
C'est vrai que c'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. Il faudrait voir dans le passé si une chose comme ça s'est déjà produite. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville. C'est une petite ville de la région parisienne. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver nous deux à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier. Maintenant, c'est anecdotique ça. Le plus important, c'est que nos deux grands pays, que sont l'Algérie et le Sénégal, se retrouve à ce niveau de la compétition. On va s'affronter pour gagner ce titre prestigieux qu'est la Coupe d'Afrique, tout simplement.
Et oui, pour gagner ce titre prestigieux, alors on a d'un côté un Sénégal qui n'en a jamais gagné encore et qui dispute sa deuxième finale, et puis l'Algérie qui l'a remporté une fois à domicile en 1990, et surtout dans un contexte algérien hein, qui vit depuis plusieurs mois une forte contestation populaire envers ses dirigeants. Est-ce que ces ingrédients, Habib Bey, magnifient le match et magnifieront le résultat ?
Je sais pas. Est-ce que le contexte social qui peut y avoir dans votre pays vous booste sûrement. En tout cas, les sélectionneurs, pour que ce soit pour Djamel Belmadi ou même pour Aliou Cissé, appuient sur ces leviers-là parce que c'est important lorsque vous êtes loin de votre pays de ressentir un petit peu les vibrations. Pour les Sénégalais, ça a commencé doucement, c'est-à-dire l'engouement autour de cette CAN n'était pas forcément exceptionnel avant la CAN, et puis là, c'est monté en puissance, et on retrouve ce qu'on avait vécu en 2002. Donc, je pense que toutes ces vibrations, ils les ressentent. Aliou va faire en sorte que les joueurs soient au courant de ça, en tout cas, puissent s'imprégner de ça, parce que c'est pas jouer la finale avant ou pas se mettre une pression supplémentaire. Mais comme vous l'avez dit, pour Djamel Belmadi, il y a aussi une forme de reconnaissance, une forme d'essayer de s'identifier à ce qu'est l'Algérie. Et cette équipe, je trouve, l'a démontré. Donc forcément, oui, le contexte social, toute cette ambiance qu'il peut y avoir dans un pays, bah, forcément reflète sur une sélection.
Xavier ?
On l'a vu l'an dernier en France. On l'a vu l'an dernier en France, et beaucoup de joueurs d'ailleurs en ont témoigné. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai engouement populaire en France, mais ils s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient à Moscou. Et donc, malgré les retours qu'ils avaient, ils pouvaient pas mesurer.
Les réseaux sociaux et tout ça.
Oui, mais ils pouvaient pas mesurer vraiment la passion qu'il y avait. Alors, on peut imaginer que, comme ces deux finalistes sont des pays francophones avec de forts liens avec la France, qu'ils ont aussi, on l'a bien vu dans les extraits des chansons que vous nous avez passées tout à l'heure, qui a cette petite idée aussi derrière la tête. Les Bleus l'ont fait à Moscou, alors que les gens étaient dans la rue à Paris, à Marseille, à Lyon et dans les autres villes. Et bien là, les uns comme les autres peuvent le faire, alors que le peuple est dans la rue à Alger ou à Dakar.
Mais pour juste dire, Annie, par exemple, nous on l'avait vécu au Mali en 2002 sur la Coupe d'Afrique, on était à proximité malgré tout du Sénégal, c'est pas très loin le Mali et le Sénégal. Par contre, lorsqu'on était en Corée sur la Coupe du Monde 2002, c'est vrai qu'on était très loin, il y avait ce décalage horaire, mais les images, vous les voyez, même s'il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux en 2002, on avait des échos de ce qui se passait au pays, et mine de rien, vous vous imprégnez de ça. Et vous faites votre compétition aussi avec ça, le fait de voir que en quelque sorte, pendant un instant, pendant une minute, pendant 90 minutes, pendant une journée, pendant deux jours, les gens qui vivent des moments difficiles par rapport à un contexte social particulier en Afrique puissent oublier en fait tous les problèmes. Ça ressemble un petit peu à lorsque Thierry Roland dit maintenant je peux mourir tranquille. Bah quand le Sénégal a vécu ça en 2002, il y a un monsieur qui a dit maintenant que j'ai vu ça, je peux m'en aller. Il y a toutes ces choses là qui font que à un moment donné on oublie notre quotidien, on est bercé par ce football qui nous procure des émotions incroyables. Et ça sera pareil pour l'Algérie que pour le Sénégal.
Frédéric ?
Non, moi ce que je voudrais ajouter effectivement, c'est que on va pas dire que la finale, le match en soi est anecdotique. Bien entendu, hein, il y aura un vainqueur, il y aura un vaincu. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui se passe depuis une dizaine de jours. Quand en Algérie, au Sénégal, on a senti depuis les quarts de finale qu'il y avait quelque chose à faire pour aller jusqu'au bout. L'avant-match est déjà réussi dans ces deux pays, en France également, avec les communautés algériennes, sénégalaises. Et finalement, est-ce que le sport, ça n'est pas ça ? On parlait de la Coupe du Monde l'an passé, ça a réveillé les Français pendant trois semaines. Il y a une sorte d'engouement, quelque chose d'incroyable, de la communion. Et après, oui, il y a le match. Il y aura un vainqueur. Mais c'est presque anecdotique, quelque part. C'est tout ce qui se passe là, avant le coup d'envoi qui est important.
Rémi, on a même presque peut-être l'impression avant le match que les deux équipes ont gagné. Le fait d'arriver en finale, le fait d'écrire l'histoire de toute façon, d'avoir atteint ce stade de la compétition.
Oui, parce que il faut se dire que après la religion qui était l'opium du peuple, aujourd'hui c'est le football totalement qui est devenu le véritable opium. Donc c'est d'ailleurs utilisé à des desseins politiques. Ça, c'est depuis Hitler d'ailleurs qu'on le sait. Mais cependant, est-ce que cela booste les joueurs? Je ne pense pas, parce que chaque joueur vient en portant déjà le maillot d'un pays. Mais là où c'est plus important, c'est ce lien que Suto vient d'évoquer, c'est-à-dire que ça fait la fierté de trois grandes nations à la fois. C'est-à-dire que ça fait la nation du peuple algérien, ça fait la nation du peuple sénégalais, mais aussi ça fait la fierté de la France. Parce que c'est ce qu'on a souvent voulu demander, à savoir qu'on se retrouve quand même là avec 10 joueurs sénégalais qui ont été formés en France, 14 du côté de l'Algérie qui ont été formés en France, qui sont même, beaucoup sont nés en France, comme Andy Delors, qui vient de découvrir juste l'Algérie là. Et puis ça fait deux sélectionneurs qui, un est né en France, connaît ses origines africaines, algérienne, il est retourné, un est né au Sénégal, il est venu en France à 9 ans, mais n'a pas oublié ses origines. C'est ce qu'on dit toujours, il faut se rappeler d'où on vient, même si on peut servir la France. Et ça montre aussi une autre identité à ce que je revendique souvent ici, à savoir que il faut profiter de l'enseignement français, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont fait des écoles en France, qui ont appris à entraîner aussi en France, et qui sont retournés chez eux, aujourd'hui, ils sont plus importants que de prendre d'autres gens qui peut-être n'ont pas la culture africaine, qui se retrouvent en train de coacher les équipes africaines. Donc là, la France gagne parce que au moins, quoi qu'on dise, la France va dire, ce sont des élèves qui viennent de chez moi, c'est mon humus, et l'Afrique va aussi dire, c'est toujours aussi mes enfants, et non. Du coup, ça fait au moins une bonne coopération franco-africaine.
Je vais mettre les lunettes de soleil comme Rémy Ngono et répéter la même chose. Ce que j'allais dire, effectivement, que c'est la
grand
succès, c'est un grand succès de la formation à la française qui bénéficie et au Sénégal et à l'Algérie.
Mais c'est surtout aussi peut-être, Xavier, on se souvient l'année dernière, l'Afrique qui se sentait d'une certaine manière représentée dans cette France qui venait d'être sacrée championne du monde, et c'est un peu l'inverse qui peut se produire cette année finalement. C'est ça qui est amusant.
Oui, mais c'est pas tout à fait étonnant. On voit que ces joueurs, il y en a qui sont sous le maillot bleu, d'autres qui sont sous le maillot du Sénégal ou de l'Algérie. Ils ont été dans les mêmes centres de formation pour une grande partie, pas tous, mais une grande partie. Alors je pense que c'est aussi important, et il faut quand même aussi rendre aux Sénégalais et aux Algériens, et notamment leurs sélectionneurs, le fait d'aller piocher dans les joueurs locaux.
Complètement.
Même moi, je râle assez souvent contre le débauchage de certains binationaux. Donc il faut aussi mettre en avant le fait que notamment au Sénégal, Aliou Cissé, il met un certain nombre de jeunes nés au Sénégal et formés au Sénégal, parce que maintenant avec Génération Foot notamment et les Diambars, il y a des centres de formation au Sénégal et aussi en Algérie, et Djamel Belmadi justement a fait appel à des joueurs qui sont jamais passés par la France, dont Rémy Ngono par exemple s'étonnait de la présence, comme Bounedja, mais c'est aussi l'exemple qu'il faut pour les Algériens d'Algérie, qui est aussi des jeunes qui sont formés là-bas.
Cette équipe d'Algérie, il faut quand même se dire que ceux qui ont été formés à domicile en Algérie, ils ne jouent pratiquement pas, peut-être en dehors, dans le championnat algérien. Il y a un seul au milieu de terrain, Aouchi, je crois qu'il a joué 99 minutes.
Que les joueurs, qu'ils soient nés ou pas au pays, sentent cette pression et sentent finalement l'engouement d'un peuple derrière eux. Eh bien, écoutons Ismaël Benacer, parce que il le dit, il le sent, et en plus, il y a ce pont aérien. Chose très particulière entre ces jours-ci, entre l'Algérie et l'Égypte, et du coup ça donne encore plus peut-être d'importance aux supporters pour les joueurs algériens.
Une finale de Coupe d'Afrique, c'est pas rien, surtout pour nous. On a refait ça 29 ans après, maintenant c'est à nous de la gagner. Une finale comme ça, comme des grands matchs, ça joue à des détails. Faudra faire attention à tout, faudra être à fond de la première à la 95e minute, et plus s'il y a plus. Et il ne faudra pas se relâcher. Ils vont revenir revanchards, ils vont vouloir gagner, ce qui est normal. Encore plus une finale. Et maintenant, c'est à nous de faire les bonnes choses, d'écouter le coach et de faire ce qu'on sait faire sur le terrain. Moi, personnellement, et le groupe, je ne ressens pas tellement de pression. C'est de la bonne pression, c'est de la pression positive. Parce qu'on a vraiment pas mal de monde, on va dire, derrière nous. Hein. Du coup, il n'y a que de l'encouragement. 30 000 Algériens qui font le déplacement. Des quatre coins du monde, d'Algérie aussi surtout. C'est énorme, c'est incroyable. Ça peut nous donner que de la force.
Alors, l'inflation des chiffres, un peu, on ne sait pas s'ils seront 30 000 du côté du Caire. En tout cas, c'est deux équipes qui se retrouvent. Et évidemment, on sent pour les joueurs l'importance. Christophe Jousset disait ce matin, en parlant avec Joseph-Antoine Bell, 46 joueurs se sont levés ce matin en se disant qu'ils seraient champions d'Afrique. Évidemment, il n'y en a que la moitié qui le seront ce soir. Ces deux équipes ont dominé la compétition. Habib, on va s'attaquer au côté sportif maintenant. Le schéma tactique, c'est ce qui est le plus important.
Ouais, c'est très important en football. C'est pas l'essentiel.
C'est ce qui détermine quand même le match.
Ça détermine pas mal de choses, oui, parce qu'après on parle aujourd'hui de système, on parle d'animation, mais il y a plein de choses à l'intérieur de tout ça.
C'est pas juste. Et le mental aussi.
Il y a le mental, mais on a pu voir que sur le match de poule, je l'avais dit ici, j'ai trouvé qu'on avait été surclassé techniquement, j'ai trouvé qu'on avait été surclassé physiquement, on avait été surclassé mentalement. Donc dans un match de football, il y a plein de choses. Il y a aussi la réussite, qui parfois rentrent en ligne de compte sur des matchs qui sont très serrés. On l'a pu le voir à travers cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a, par exemple, pour la Tunisie, ça se joue à peu de choses en demi-finale. Ce qui est sûr, c'est que, pour moi, ce match aujourd'hui va être gagné par les défenses. Parce qu'il y a tellement de talent offensivement que si défensivement vous n'êtes pas bon, que ça soit du côté de l'Algérie ou du côté du Sénégal, ça serait difficile pour une des deux équipes. Moi, je pense que défensivement aujourd'hui, si le Sénégal veut l'emporter, il faudra être très très fort.
La meilleure défense jusqu'à présent, c'est celle du Sénégal. Elle a encaissé un seul but et c'était justement le but de l'Algérie.
Ouais, contre l'Algérie. Après, il y a un vrai problème, c'est que Kalidou Koulibaly n'est pas là. C'est un problème. Ali Cissé l'a dit, ils joueront pour Kalidou Koulibaly, mais il est clair que c'est le leader de défense de cette équipe. Pour moi, il est le meilleur défenseur de cette CAN et de très loin. Et aujourd'hui, je pense que Rémi sera d'accord, on peut considérer qu'il est dans le top 5 en Europe, dans le monde, sur sa saison, sur ses qualités. Il l'a encore démontré à la CAN et c'est sûr qu'on aura une doublette sûrement Salif Sané Kouyaté. C'est pas la même chose parce que Koulibaly va très très vite. C'est lui qui, en général, vient couper toutes les trajectoires dans le dos des deux défenseurs ou des latéraux. Là, en l'occurrence, il sera pas là. Maintenant, je pense que Aliou va aussi faire en sorte que cette équipe puisse bien joué défensivement avec ces deux joueurs. Salif Sané a montré sa qualité, Kouyaté aussi s'est imposé parce que Salif Sané avait été blessé. C'est une inquiétude parce que c'est le leader de défense, mais maintenant il faudra faire sans. On a déjà vu ça, Laurent Blanc n'était pas là à la finale de la Coupe du Monde en 98, la France l'a quand même emporté et c'était un joueur leader.
Rémi,
je peux être d'accord avec mon cher ami, mais sauf que dans cette CAN, c'était vrai que sur l'ensemble de la saison, on va dire que Kalidou Koulibaly, je peux même le classer dans le top 3 des défenseurs. Mais là, sur l'alignement et sur certaines prises de décision, je l'ai trouvé un peu lent, je l'ai trouvé un peu émoussé. Je crois que...
On n'a pas vu la même CAN.
Et même
on n'a pas vu la même CAN.
Non, oui. Peut-être on n'a pas vu la même CAN.
On voit jamais les mêmes matchs.
Kouyaté également, même si le Sénégal conserve jusqu'à présent la meilleure défense, je l'ai vu secouer correctement par Mounier.
Ouais. Et Kouyaté a été secoué, mais tu me parles de Koulibaly, tu me dis qu'il a été lent et qu'il a trouvé
émoussé. Maintenant, tu me laisses parler aussi.
Je te trouve.
Tu peux me laisser parler.
J'espère que tu vas me donner des arguments.
Oui. Et voilà. Donc maintenant, je trouve que le problème, contrairement à ce que est en train de dire, parce que Sabali, aujourd'hui, je le trouve un peu trop offensif et il risque d'avoir de sérieux ennuis parce que sur les couloirs avec l'équipe d'Algérie. Donc comment est-ce que Cissé, qui a été bouffé au niveau du milieu de terrain par l'Algérie au premier match, va réagir. Et puis, il y a un problème qui est très important. Lui, il me parle des petits trucs, mais il y a un problème physique. Écoutez Belmadi. Belmadi a dit, nous sommes prêts physiquement à 200%. Or, l'équipe du Sénégal baisse le pied à partir de la 60e minute. Constatez d'ailleurs que la dernière victoire de l'Algérie, c'est juste dans les dernières secondes que c'est là où Mahrez met le coup franc. Et d'ailleurs, c'est là où généralement...
C'est pas le physique, ça c'est lié au talent. C'est
un coup franc, c'est pas lié au physique. Je peux vous dire, jusqu'à présent, il y a Islam Slimani qui entre souvent, ou Ounas. L'Algérie finit ses matchs très très fort à la fin. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que le Sénégal répondait physiquement parce que ce n'est plus l'ancienne Algérie. L'ancienne Algérie qui disait souvent que c'était le football technique, cette fois-ci c'est une Algérie agressive, une Algérie très physique, une Algérie qui représente enfin ce qu'on appelle les fenecs. Les fenecs veulent dire les chasseurs qui sont véloces, qui sont physiques et surtout qui répondent aux conditions de sécheresse dramatique. Et ce sera, il fera très chaud.
Non, mais c'est vrai que les Algériens ont été impressionnants physiquement. On trouve notamment au premier tour, en huitième de finale, il y avait une fraîcheur physique qui se dégageait de cette équipe. Moi, je trouve que ça a été un peu moins vrai. En quart de finale, ils étaient à Suez face à la Côte d'Ivoire. Alors ce jour-là, il faisait très, très, très chaud à Suez et ça avait été très difficile. Jamel Belmadi avait fait le choix de ne faire le déplacement que le jour du match. Ils sont arrivés là dans la touffeur de Suez et bon, ils sont sortie commencer au tir au but face aux Ivoiriens et face au Nigeria. Rémi, bon, enfin, ça n'a pas été si simple. Et le coup franc de Riyad Mahrez, là, c'est comme disait Habib, c'est le talent
technique
de Riyad
qui
évite la prolongation. J'ai plutôt l'impression qu'elle est un petit peu en.
C'est une finale, mais
dans
c'est
la phase descendante. C'est aussi une finale.
Là, on est sur un match où les émotions vont prendre le pas aussi sur cette capacité physique. Alors, c'est bien d'être bien physiquement, c'est important, mais je crois que l'émotion est importante aussi dans ce genre de match. Et puis tu me fais des constats aujourd'hui par rapport à l'Algérie. Tu me dis oui, Sabali, je le trouve trop offensif et du coup avec Mahrez il va être en difficulté. Mais si demain Sabali il arrive à faire défendre Mahrez, c'est le rapport de force, il s'inverse aussi. Donc j'entends ça, hein, je le constate aussi. Je me dis aujourd'hui, Sabali va peut-être être moins offensif parce que quand t'as Riyad Mahrez, mais aussi, le rapport de force que tu imposes aujourd'hui en football, c'est de dire peut-être, bah Sabali, moi je veux que tu continues d'être un petit peu haut parce que je veux que Mahrez défende sur toi. C'est à un moment donné des clés tactiques que vont étudier les deux entraîneurs. Il y a de la vérité dans ce que tu dis, il y a de la vérité dans tout ce qu'on dit, et il y aura la vérité du terrain. Je pense que physiquement c'est important, mais lorsque t'es dans une finale, tu poses la question, comme on l'a dit tout à l'heure, aux 46 joueurs qui sont dans ce groupe, ils vont vous dire tous, on est à 300%. Il n'y en a aucun qui va dire, je suis à 20%, je suis fatigué de ma saison. Non, non. Ils sont tous à bloc. Après, il y a les réalités du terrain, il y a les réalités de la chaleur, il y a la réalité de l'adversaire qui t'impose quelque chose, comme avait imposé l'Algérie en match de poule. Mais on verra ce qui va se passer tout à l'heure.
Ouais, Xavier Barret. Effectivement, Rémi Ngono nous dit oui, le Sénégal s'essouffle. Mais bon, l'Algérie, notamment lors du quart de finale contre la Côte d'Ivoire, ils ont eu du mal à finir le match. Ils se sont qualifiés qu'au tir au but, faut pas oublier. Donc, et les Ivoiriens ont vraiment mis un gros pressing et ça s'est joué à peu de choses. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils sont à peu près au même niveau. En revanche,
non, puis il y a eu la prolongation avec en demi-finale. Donc
pour le Sénégal,
juste, oui, ils sont allés, disons, tout près de la prolongation, c'est vrai.
Face à la Tunisie. Mais ce qui se passe, là, il faut pas oublier une chose, parce qu'on compare beaucoup par rapport au match de poule gagné par l'Algérie 1-0. Mais c'est pas le même Sénégal qu'on va avoir. Il faut rappeler que lors de ce match de poule, Gana Gueye était pas là, Ismaïl Sarr était pas là, et Salif Sané non plus. Alors donc Salif Sané là revient par la force des choses puisque Koulibaly est suspendu, mais quel Sénégal on va voir exactement lors de cette finale, peut-être que Aliou Cissé peut changer quelque chose encore. Il a changé l'équipe par rapport au match de poule à l'aller, alors que l'Algérie c'est toujours la même équipe. Donc l'avantage des Sénégalais, c'est qu'ils connaissent l'Algérie.
On va l'écouter justement Aliou Cissé sur ce thème parce que bien évidemment la question lui a été posée. Vous avez déjà joué contre l'Algérie et vous avez perdu ce match et on s'en est tous rendu compte. On l'avait déjà un peu commenté, mais on y revient à cette réponse d'Aliou Cissé.
C'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie, mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre tour critique. L'Algérie est une grande équipe, donc nous respectons l'Algérie, mais comme j'ai dit, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles, et aujourd'hui nous sommes en finale déterminés à la gagner, tout simplement.
Habib, c'est ça. On se souvient que les deux sélectionneurs, au moment de cette rencontre qui était déjà évidemment le match phare de leur poule, puisqu'ils étaient dans le même groupe, ces deux équipes, les deux sélectionneurs, ils avaient dit tout de suite, mais ce n'est pas un match décisif. Est-ce que c'est ça la grosse différence?
C'était pas un match décisif, ça l'est toujours en football. Oui, j'ai du mal avec ces mots où c'est pas un match décisif. Par contre, ce qui était important, c'est que les deux équipes avaient gagné leur premier match.
Voilà,
donc forcément, ils s'étaient offert le luxe, en quelque sorte, de pas être obligé de gagner ou de se dire si on fait un faux pas on a quand même un troisième match. Ils avaient perdu leur premier match, ça aurait été un match décisif le deuxième. Ensuite c'est vrai, pas la même équipe du Sénégal, il y a eu une vraie suprématie de l'Algérie sur ce match-là. Pour moi, il y avait pas de débat. L'Algérie pour moi a surclassé le Sénégal, même s'ils n'ont gagné que 1-0. Après, ça va être un tout autre match, c'est une finale. Encore une fois, l'Algérie a montré beaucoup de force, mais cette finale va amener beaucoup d'émotions. Je l'ai vécu en 2002 et je peux vous le dire, j'en ai perdu, je le dis assez souvent. Ce qui est sûr, c'est que on aura un Sénégal qui sera complètement différent, mais on aura aussi une Algérie qui va être différente parce que c'est l'approche d'une finale et qu'ils ont tout autant envie que le Sénégal de ramener un trophée dans leur pays. Donc ça va être un match assez incroyable d'intensité. On a les nerfs un petit peu à vif, on est un petit peu tendu, mais on va le vivre d'une très très belle façon.
Moi, une Frédéric. Question que j'aimerais poser à Habib, parce que je me souviens de Didier Deschamps qui a dit l'année dernière, mais après la finale, j'ai eu comme une révélation, je sais plus, 3 jours avant la finale, j'ai senti qu'on allait la gagner. Autant la finale de l'Euro, il y avait des éléments qui me laissaient penser qu'elle allait être difficile face au Portugal, mais là, avant de jouer les Croates, je l'ai senti. Est-ce que, véritablement, il y a des choses qu'on sent comme ça avant une finale, ou c'est toujours plus simple d'écrire l'histoire après?
Non, mais c'est toujours plus simple de l'écrire après. Après, je pense qu'il est honnête dans ce qu'il dit. Moi aussi, ça m'est arrivé de jouer des matchs ou jouer des finales et de me dire, celle-là, je la sens bien, et puis, pourtant, elles me sont passées sous le nez, hein, j'en ai gagné qu'une. Donc, c'est ce qui est sûr, c'est que vous avez souvent des ressentis pendant le match. Et moi, ces ressentis-là, à travers certaines défaites, je les ai ressentis parce qu'on se dit ça nous échappe. Et j'en parlais la dernière fois au niveau des émotions. Quand ça vous échappe et que vous pouvez rien faire contre ça, parce que c'est comme ça, parce que peut-être que ce soir le Sénégal sera bien supérieur à l'Algérie, alors que personne ne voit ça, ou peut-être que l'inverse, l'Algérie va être bien supérieure au Sénégal. On s'attend à un match très serré. On ne sait pas les histoires de finale. Lorsqu'on voit la finale de l'équipe de France en 98, personne ne s'attend à ce que la France mette 3-0 au Brésil. Donc le match, à un moment donné, prend une tournure qui fait que on se dit bah ça va aller dans notre sens. Je crois qu'Aliou est confiant pour une raison. C'est qu'il a vécu l'échec de 2002 et lui, il l'a vécu vraiment, pour le coup, intensément. Il rate le penalty, il est le capitaine de cette équipe. Ensuite, on va en Coupe du Monde. Donc tous ces échecs-là, pour moi, les ont construits en tant qu'homme. Et les ont construits aussi à travers ce qu'ils ont vécu. 2017, éliminé en quart de finale face au Cameroun, on l'a dit. Et puis surtout, le fait de ne pas aller en huitième de finale de Coupe du Monde alors que vous avez gagné votre premier match. Et je sais qu'Aliou a aussi construit ce groupe à travers ces échecs-là. Et souvent, une équipe se construit à travers les échecs. Il ne faut pas penser qu'une équipe se construit qu'à travers les victoires. Elle se construit aussi dans les échecs et elle est bien plus forte justement lorsqu'elle rencontre une autre échéance comme celle-ci.
Ouais, il y a pas mal d'exemples dans le football mondial, effectivement. Rémi ?
Oui, il y a Xavier Barret qui a fait une très bonne remarque. Oui, quand il fait quelque chose, parce qu'il avait mis les lunettes pour voir cette remarque-là, pour lire. Parce que ce n'est pas sa remarque, il a vu ça quelque part là. Il a mis bien des lunettes de catéchisme avant de déceler ça. C'est que, en fait, la réalité, c'est que le Sénégal a été dominé au premier match au milieu du terrain, où Bennacer, Belhagni ont totalement étouffé. Or, là, quand vous regardez la constitution du milieu de terrain aujourd'hui, c'est-à-dire avec Ndiaye, avec Gana Gueye, et puis Saïvé qui sont là, c'est quand même un milieu assez souverain. S'ils remettent un peu du muscle, c'est quelque chose qui peut aller.
Et ça fera un match très différent de celui du 21 juin.
Un match très différent, c'est ce que je voulais justement souligner, parce que Sadio Mané, les attaquants sénégalais n'étaient pas alimentés. Parce que l'Algérie avait coupé le cordon ombilical.
Et surtout, on n'était pas capable d'avoir de maîtrise. Le souci qu'on a eu aussi sur le match de l'Algérie, c'est qu'une équipe comme l'Algérie, vous savez très très bien que logiquement, techniquement, elle va vous être supérieure. Quand vous jouez les équipes du Maghreb, que ce soit l'Égypte, techniquement, elles vous sont en général supérieures. Je dis pas ultra supérieures, mais elles vous sont en général supérieures. Donc vous gagnez en quelque sorte, rattraper un petit peu cet écart qu'il peut y avoir dans l'impact et dans cette capacité à heurter l'adversaire quand vous avez le ballon. Ce qu'on n'a pas été capable de faire sur le match de poule, pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas cette maîtrise. CV a apporté ça, et Gana Gueye a aussi apporté ce fait d'être un box-to-box, d'appuyer aussi les attaquants. On le voit à l'image du but qu'il marque, je me rappelle plus, sur le relais de Sadio Mané, contre le Bénin. Et ça a modifié en fait notre milieu de terrain. On a un Ndiaye qui récupère des ballons, qui met de l'impact, et on a Idrissa qui est capable d'en récupérer, mais qui est aussi un créatif avec Henri CV. Et je trouve que ça a modifié aussi notre équipe, et on en a besoin face à l'Algérie, parce que si on leur rend le ballon trop vite, là, ça risque d'être compliqué avec la maîtrise que eux ont techniquement.
Alors, quels seront les joueurs qui peuvent faire aussi basculer un match, comme on dit ? Il y en a de part et d'autre, vraisemblablement, de ces grands joueurs. D'un côté, on a évidemment, on met beaucoup en miroir Sadio Mané et Riyad Mahrez, mais on a aussi Idrissa Gana Gueye d'un côté, on a Ismaïl Assar, et de l'autre côté, on pourrait citer Sofiane Figouli ou Bagdad Bounedja, la révélation. Mais tout de suite, eh bien, écoutons Crépin Diatta. C'est un tout jeune Crépin Diatta. Il a inscrit d'ailleurs son premier but en CAN durant la compétition, et il dit qu'il a l'expérience malgré tout.
J'ai à cœur de jouer une finale, comme tout le monde. Je suis bien dans ma tête, et puis je pense qu'à une seule chose, c'est de gagner cette coupe, c'est fini. Ça m'a beaucoup aidé de jouer une finale avec les U20. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer une finale avec les seniors. Donc je dirais que c'est pas aussi la même chose au niveau de l'expérience. C'est deux choses qui sont différentes, mais qui signifient la même chose.
C'est quand même de l'expérience, même s'il n'a que 20 ans, Habib. C'est compétition dont on commence à parler de plus en plus, mais il a déjà disputé une finale de CAN, même si c'est ou de jeunes catégories, disons, les moins de 20 ans, les moins de 17 ans, tout ça. En fait, ces jeunes s'aguerrissent au fil du temps.
Oui, je comprends sa communication. Il a tout à fait raison de dire ça, mais l'expérience s'acquiert avec le temps.
Bien sûr.
Et on a jamais assez d'expérience, en quelque sorte. Parce que vous êtes jamais, c'est jamais la même finale. Vous n'êtes jamais confronté au même événement. Moi, je le sais assez souvent, je le dis assez souvent à travers ma carrière. J'avais l'impression que l'année d'après, et j'en ai joué 3 de suite en 3 ans des finales, et je me disais toujours, l'année d'après, je suis plus préparé, je suis mieux préparé mentalement, j'ai beaucoup plus d'expérience, et en fin de compte, c'est pas une vérité. C'est pas une vérité, même s'il a abordé une finale en U20, là, il va découvrir quelque chose de hors norme. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, il est en senior, il est le représentant ultime de son pays, comme le disait tout à l'heure Rémi. Et puis surtout, vous allez rentrer, vous allez voir cette coupe, vous allez la regarder, et vous allez dire, dans 90 minutes ou dans 120 minutes, c'est soit aller avec moi, ou soit aller chez l'autre. Et ça, mine de rien, on ne se rend pas compte. L'impact que ça a, et regardez tous les joueurs qui rentrent aujourd'hui sur une finale, la coupe est juste à côté, vous en avez qui la touchent, très très peu, et vous en avez qui l'ignorent complètement.
Qui la regardent pas.
Parce que, à un moment donné, on ne se rend pas compte. Mais cet impact-là, il est hors norme. Moi, je vous dis, j'en ai perdu beaucoup. Donc, cet impact-là, il est hors norme. Et que ça soit pour un sélectionneur, pour un staff, quand vous êtes en finale, c'est le trophée ultime. C'est-à-dire que vous êtes au pied du Graal, mais c'est l'étape la plus difficile. C'est-à-dire que vous devez monter l'Himalaya à ce moment-là. Et c'est ça qui est difficile de dire, oui, j'ai l'expérience des finales. Oui, le Real Madrid, quand il gagne trois fois de suite, l'expérience rentre en ligne de compte. Mais ils ont tous cette crainte de se dire, bon, bah, aujourd'hui, on est peut-être pas, elle n'est peut-être pas pour nous, quoi.
Après, il y a un élément qui est arrivé l'année dernière à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu une prime à la jeunesse, quand même. On a vu que les équipes qui étaient en demi-finale, je crois que c'était les quatre plus jeunes, pratiquement à part les Croates, qui étaient plus âgés, mais sinon France, Angleterre, Belgique.
Oui. Il y avait une moyenne d'âge qui était.
Les moyennes d'âge les plus basses, parce qu'aujourd'hui, la condition physique est quelque chose de déterminant. Donc, effectivement, il faut des joueurs frais, spontanés, qui apportent cette fraîcheur. Et puis, deuxième élément, alors, on l'a pas trop vu sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le recours à l'assistance vidéo qui existe sur la CAN et qui était à la Coupe du Monde fait que les anciens défenseurs qui jouaient au vice, à l'expérience pour bloquer des actions, maintenant ils se font piéger, ils se font remarquer, ils se font sanctionner. Donc cette expérience ça joue moins maintenant dans le football tel qu'il est arbitré.
Alors hier on avait pris le pouls du côté de Dakar, on avait été voir des supporters des Lions avec notamment Bourama Goudiaby qui était là et qui nous racontait comment il se préparait et comment allait se vivre cette finale du côté de Dakar. On va prendre tout de suite la direction de l'Algérie. Alors aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Tarek Sadié Ben Arbla. Bonjour Tarek.
Oui, bonjour, c'est Tarek Sadié. Si vous le permettez.
Pardon,
excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, salam alaikum à tous et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ici, je pense que c'est l'effervescence depuis quelques jours déjà.
Racontez-nous la capitale aujourd'hui, Alger.
Bah, déjà, comme chaque vendredi, c'est plein. Hein, donc, il n'y a pas besoin de finale à la base. Hein. Pour les vendredis depuis février, c'est rempli. On va dire que ça ne manque pas d'effectifs. Mais bien sûr avec l'addition de cette finale là qui quand même apporte vraiment un baume au cœur. Donc il y a énormément de d'engouement. Il y a aussi beaucoup de tension, c'est-à-dire on sent les gens un peu stressés, etc. Parce qu'on a envie de la gagner, on a envie de un petit peu de retrouver le succès après je crois 29 ans sans gagner la Coupe d'Afrique. Donc c'est tout à fait légitime au vu du parcours qui a été fait par l'équipe nationale et derrière tout ça bien sûr on sait très bien que les deux équipes se valent hein, que ça soit pour le Sénégal ou l'Algérie, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup et que ça soit dans la qualité ou bien dans la détermination. On a remarqué aussi le Sénégal qui lors des demi-finales face à la Tunisie qui avait un petit peu gagné au forceps et qui ont un petit peu dû batailler jusqu'aux prolongations, mais ça, le résultat a été au rendez-vous. Mais voilà, comme on dit chez nous ici en Algérie, c'est du tag à la montagne.
C'est-à-dire?
Tag à la montagne, c'est-à-dire que, étant donné que le Sénégal a perdu un défenseur de classe mondiale qui est Kalidou Koulibaly, qui n'a plus rien à prouver, je pense que, avec que ce soit avec la sélection ou bien avec le Napoli, ayant aussi Fawzi Goulam au sein du club, nous les Algériens on suit énormément ce club-là et on voit un petit peu le rendement de Koulibaly en équipe nationale ou bien en club. Et voilà, je pense que comme l'a dit Monsieur Habib Bey, que je salue d'ailleurs parce que je suis un grand fan.
Merci.
Voilà, c'est un joueur qui est dans le top 5 et moi je le mettrais dans le top 3 entre nous, hein, c'est-à-dire pour ne pas tricher, etc. C'est pas parce qu'il est africain. Vraiment pas, mais il est vraiment dans le top 3 des défenseurs, de par sa vitesse, déjà, pour un défenseur central, réussir à anticiper, à courir aussi vite. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour nous, mais après, il y a aussi un avantage pour les Sénégalais, c'est l'absence de Youssef Attal, qui est une pièce maîtresse. Hein,
voilà.
Je pense, au vu de la saison cette année avec Nice, je pense qu'il a montré un petit peu de quoi il est capable.
Un absent de chaque côté, mais alors racontez-nous juste encore, Tarek, comment on va assister à la finale aujourd'hui à Alger ? Est-ce qu'il y a des écrans géants ? Est-ce qu'il y a des fan zones ? Est-ce que vous allez le voir dans la rue aussi ?
Bon, écoutez, déjà, pour les fan zones, il y en a énormément, il y a des écrans partout. Et il faut savoir qu'en Algérie, déjà, les cafés, c'est des fan zones. Donc, en temps normal, c'est blindé de monde et il y a énormément de d'affluence au niveau des cafés. Mais bien sûr, exceptionnellement pour les demi-finales et la finale, énormément d'endroits publics comme les hôtels, les grandes piscines, les plages.
Oui.
Et par exemple, le stade du 5 juillet a été aménagé à cet effet, c'est-à-dire pour...
On avait vu déjà, pour la demi-finale. Tarek, une dernière chose, vous dites oui. Que vous saluiez Habib Bey. Vous avez oui. Vous suivez aussi beaucoup donc le club de Naples et celui de Koulibaly. Vous aimez bien certains Sénégalais, c'est ça ? On m'a bien renseigné ?
Bah en fait pour l'anecdote j'ai un ami qui a quelques années bien sûr étant un fan invétéré comme tout Algérien qui se respecte à l'époque je me rappelle moi Sadio Mané faisait les beaux jours de Southampton à l'époque en Angleterre et il y avait un très bon ami à moi qui était de Dakar d'ailleurs à qui j'ai demandé un maillot du Sénégal floqué Mané donc voilà depuis ce jour-là je l'ai chez moi je le porte souvent hormis depuis le début de la Coupe d'Afrique c'est un peu risqué de prendre santé avec un maillot Sadio Mané mais voilà quoi mais c'est pour l'anecdote c'est le Sénégal je pense que c'est un géant d'Afrique hein, avec les Ferdinand Colly les Henri Camara les Habib Bey les Kouyaté, il y en a énormément. Je peux vous citer au moins une cinquantaine de footballeurs sénégalais qui ont pu un petit peu nous faire vibrer, hein, que ce soit au club ou Papi Cissé par exemple. À l'époque Newcastle avec Dembaba.
Vous êtes un vrai passionné et Habib va vous dire un petit mot quand même, Tarek.
J'aimerais bien que tu gardes le maillot à la maison, comme ça on va pouvoir travailler dessus et essayer de. Si tu le gardes à la maison. S'il y a un maillot sénégalais à l'intérieur de chez toi et que tu es pour l'Algérie, à mon avis, quelques temps, je le sortirai pendant 90 minutes, tu le récupères après le match.
Il n'y a pas de souci.
Merci.
Pas tant si le Sénégal gagne, je le porterai fièrement parce que c'est mérité.
C'est la très bonne ambiance qu'il y a entre les Algériens et le Sénégal, je trouve, dans ce match-là.
Exactement,
je pense que c'est plutôt un match fraternel. D'ailleurs, les deux équipes étaient prédestinées à se retrouver. C'est-à-dire,
oui.
Hormis l'histoire entre les deux coachs, hormis l'absence et au devant de la scène du football africain. Je pense que vraiment c'est une aubaine pour les deux équipes et c'est l'Afrique qui gagne à la fin tout simplement. Voilà.
Bien, merci beaucoup Tarek et bon match alors du côté d'Alger et que le meilleur gagne, on dit ici à Radio Foot International. Merci beaucoup et bonne soirée.
Salam, merci.
Merci.
Salam alaikum, merci. Merci, au revoir.
On va continuer et on va aller découvrir ce qu'est une très belle affiche quand on parle de football et quand on parle de finale. Qu'est-ce qu'une très belle affiche ? Alors sûr que théoriquement ce match sera très bien, espérons en tout cas qu'il y ait tous les ingrédients, on a des bons joueurs, on a un bel enjeu, et on s'est demandé dans Radio Foot International qu'est-ce que c'est une finale inoubliable. Et avant messieurs de vous interroger, parce que des finales de CAN inoubliables, nous on les a peut-être pas toutes en tête, eh bien à Radio Foot on a... on connaît quelqu'un qui venait ici régulièrement dans cette émission et qui en a à ce jour commenté 14. Il s'agit de Philippe Zigraf. Bonjour Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous. J'en ai suivi 14 des CAN, mais j'ai commenté un tout petit peu moins de finales.
Oui, voilà. En tout cas vous êtes au chevet des CAN, on va dire, depuis 1986.
Oui, ma première CAN c'était en Égypte d'ailleurs. Avec un Égypte-Cameroun en finale, et ça reste un énorme souvenir évidemment puisque c'est la toute première, et puis une finale pleine d'émotions entre l'Égypte et le Cameroun, 0-0, victoire au tir au but avec André Canabic, tout jeune, avec la pression, qui accepte de tirer et qui manque, et victoire 5-4 de l'Égypte, 100 000 spectateurs, grosse intensité dans ce match. Alors au-delà effectivement de la qualité sportive de ce match et de ces deux équipes, eh bien il y a l'émotion évidemment d'une première CAN et d'une finale devant 100 110 000 spectateurs, je crois, à l'époque. Hein.
Philippe, qu'est-ce que c'est une finale inoubliable ou une finale de CAN mémorable?
Au-delà du jeu, bon, évidemment, c'est une finale où on s'ennuie pas sur le plan du jeu, mais il y a rarement de finale soporifique. Je dis rarement, il y en a eu, peut-être, mais il y a eu des très beaux 0-0. Adib Bey s'en souvient, ce Cameroun-Sénégal de Bamako en 2002 était une très très belle finale, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match. Une finale, c'est une finale très serrée, une finale avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'ambiance. Voilà, il y a plein d'ingrédients qui font qu'on est effectivement, qu'on se dit après, bah, on a vécu quand même un très grand moment de football. Moi, j'en ai vécu quand même quelques-unes de très sympas avec le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte ou l'Afrique du Sud.
Si vous deviez en citer une, laquelle choisiriez-vous?
Ah, j'ai pas eu trop le temps de regarder en me disant je vais en choisir une. Alors, c'est difficile, hein, c'est difficile. J'ai un souvenir de 96. À Johannesburg avec l'Afrique du Sud au FNB Stadium, une ambiance extraordinaire. L'Afrique du Sud qui avait été réintégrée deux ans et demi plus tôt au sein de la CAF et de la FIFA et qui gagne la CAN chez elle face à la Tunisie avec beaucoup d'émotions avant le match, pendant le match qui n'était pas extraordinaire, mais voilà, c'était une émotion terrible de voir cette Afrique du Sud là et Nelson Mandela sur la pelouse à la fin du match avec le trophée, avec le capitaine Neil Tovey, je me souviens à l'époque, comme il l'avait fait d'ailleurs un an plus tôt avec le capitaine des Springboks à l'Ellis Park de Johannesburg, champion du monde de rugby. Donc il y a eu toute cette atmosphère pendant toute la CAN où les gens étaient mais complètement fous, ravis d'accueillir tout le football, l'Afrique du football, et puis cette finale avec toute cette émotion. Et ça, c'est peut-être celle-là au niveau de l'émotion, peut-être pas au niveau du jeu. Celle que j'ai couverte, moi je me souviens d'un Cameroun-Nigeria en 88 à Casablanca, qui avait été un super match avec une équipe du Cameroun qui était à peu près la même que celle qui avait perdu en 86. C'était la deuxième fois que Claude Leroy dirigeait l'équipe camerounaise en phase finale et la première fois qu'il la gagnait. Et puis l'équipe du Nigeria en face avec Stephen Keshi, Egwavon, Rachidi Ekini, Peter Roufa. C'était vraiment un gros match. Il y avait une ambiance formidable alors que le Maroc n'était pas en finale. 50 000 spectateurs, je me souviens. Grosse opposition. Et puis, petite anecdote, à la fin du match, Roger Milla, qui arrive sur le terrain, qui nous prend le micro des mains et qui dit « Je l'annonce aujourd'hui officiellement, j'arrête ». Donc c'était en 88. 6 ans après, il était toujours là pour la Coupe du monde des États-Unis. Voilà.
On s'en souvient. Rémi, quelle est pour vous une finale de CAN qui vous a marqué?
Pour moi, les finales de CAN, c'est comme on dit justement, le football africain, c'est d'abord la bataille. C'est-à-dire que comme vous avez évoqué les noms de fauves, les lions et les éléphants et tout, cela veut dire que c'est véritablement ce qu'on appelle un état de guerre. Je n'aime pas des finales et d'ailleurs c'est pour ça que les équipes du Maghreb ont souvent eu ces difficultés-là, arrivent étant beaucoup trop techniques et généralement c'est ce que Rabah Madjer disait, oh là là, nous on est trop techniques et finalement on ne parvient pas à nous adapter au football africain. Bon, oubliant que le Maghreb fait partie de l'Afrique, bon voilà. Donc pour moi, les grandes finales sont celles-là où on met le pied, quitte à ce que les culottes s'arrachent, quitte à ce que les habits se déchirent, quitte à ce qu'on aille aux prolongations, qu'on se donne des coups de torse. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut impressionner, c'est ça qui fait. Voilà, comme il y a un proverbe africain qui dit que si tu te fais brebis, on te tend.
On était un peu comme ça en 2002, je ne sais pas, Habib s'en souvient bien, cette opposition Cameroun-Sénégal, ça a été un match d'une intensité assez exceptionnelle, avec ce dénouement au tir au but et Aliou Cissé, tiens, le raccourci, qui manque le dernier tir au but. Ça a été un combat pendant 120 minutes.
Oui, c'est vrai que ça avait été un combat. Je pense que sur le temps réglementaire, même voire prolongation, on a peut-être été un petit peu supérieur. Je ne sais pas si Rémi sera d'accord. Exact. On avait été un petit peu supérieur, mais à la fin, c'est le Cameroun qui a gagné au pénalty. Et c'est vrai que je pense que Aliou vit avec ça depuis maintenant très longtemps, parce que c'est une image qui doit le marquer, mais qui l'a construit aussi dans son rôle de sélectionneur. Après, pour moi, une finale inoubliable, c'est pour un joueur, c'est déjà de la gagner gagnées, parce que au moins ça vous permet de jamais l'oublier. Celles que vous avez perdues, vous les oubliez pas, mais elles vous marquent. Et ensuite, pour les générations, c'est, je trouve que lorsque ça marque des générations, mais une multitude de générations. On parlait de la victoire de 98 pour la France et 2018. Tout le monde disait 98, c'était mieux. C'est pas vrai. Si vous interrogez un garçon de 11 ans, il a pas connu 98, il va vous dire, moi, c'était génial 2018. Donc c'est des générations. Et quand vous ramenez les gens comme ça dans la rue à travers une victoire, c'est ça une finale oubliable. Parce que vous allez vous dire, cette finale a permis, en fait, cette communion. Et c'est pas forcément lié au spectacle. Oui, demain, s'il y a 3-3, et puis en prolongation, dernière minute, 4-3, but Sadio Mané, oui, je vais vous dire, ça va être inoubliable. Mais c'est aussi le fait de réunir les gens dans un stade, à travers une fête. Et je trouve que pour l'instant, tout est réuni dans l'ambiance du match, à travers les deux sélectionneurs, à travers les deux équipes, à travers les deux peuples qui disent c'est un match de la fraternité. C'est aussi ça, une finale inoubliable, de voir comment ça va se passer sur le terrain.
C'est-à-dire que Sadio Mané qui marque à la 90e minute, Riyad Mahrez qui égalise à la 91e minute. Voilà la finale inoubliable.
Frédéric Suto et Xavier, je vais vous demander en quelques secondes, vous auriez une finale mémorable, vous?
Moi, je suis un petit bleu, hein. Non, mais ma première CAN, c'est en 2004, la Tunisie, qui s'était imposée à domicile. Il y avait tous les éléments réunis avec Roger Lemaire, bon, l'arbitrage.
Avec tous les
qui avait un peu aidé, tout ça. Voilà,
il y a que des mauvais souvenirs. Vous me parlez de 2002, on a perdu, vous me parlez de 2004, la Tunisie qui nous a battu en quart, s'il vous plaît.
De 2006, l'Égypte.
Mais le problème, c'est que vous n'avez que les mauvais souvenirs.
Moi, j'ai été vainqueur à domicile.
On l'aura ce soir.
Donc maintenant, aujourd'hui.
Xavier, rapidement.
Moi, j'aime pas trop les finales qui se jouent au tir au but, et il y en a eu beaucoup en Cannes, malheureusement.
Ah, c'est ça que j'aime.
Donc, je trouve ça insupportable. En revanche, je me souviens avec toute la symbolique que ça représentait de la finale en Afrique du Sud en 96, effectivement,
oui,
avec la victoire des Bafana, et toute la symbolique qu'il y avait autour de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Philippe, merci beaucoup. On est pressé par le temps. Vous connaissez ça, hein, la pendule qui nous dicte son temps. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été en direct avec nous. On ne vous oublie pas dans Radio Foot International. Revenez bien nous voir.
C'est très gentil. Et juste une pensée pour Bruno Métu.
Et Jules Bocandé et Mansour Watt, qui étaient du staff de cette équipe en 2002. Mais c'est très très bien d'avoir cette pensée. Merci Philippe.
Merci beaucoup Philippe Zigraf. À très bientôt. On vous rappellera, c'est promis. Avant de terminer cette émission, on aurait une petite question à vous poser. On vous a réservé une petite chose à Bib. On voudrait savoir, si vous êtes prêt ce soir à rugir comme un lion. Écoutez.
Avec un peu d'entraînement, tu ne seras plus considéré comme un lionceau.
Écoute bien.
Hey, hey, Sénégal, GKR. Les lions ne miaulent pas, les lions ne miaulent pas. Remets tout le monde corda. Les lions ne miaulent pas.
Vous miaulez ?
Non, on miaule pas, non. Ce soir, on va rugir. D'ailleurs, dans notre hymne national, vous le savez, les lions rouges à rugir. Hein, donc ce soir, on doit le faire. Non, mais c'est notre soir. C'est notre soir. Je le sens, je le ressens. J'ai envoyé un petit message à Aliou et Lamine Diatta.
De toutes les façons, la grande voyante sénégalaise a déjà dit que le Sénégal allait gagner. Donc, pour l'instant, moi, j'ai déjà réservé ma place dans un hôtel, dans un restaurant sénégalais. Et puis, gardez-moi le tchèque que vous avez préparé.
Oui,
là.
En tout cas, Aliou,
si le Sénégal perd, je ne viens pas. Hein. Je pars chez mon ami algérien qui n'est pas promis.
On veut une belle fête avec, bien sûr, pour moi, une victoire pour le Sénégal, mais une belle fête du football surtout ce soir.
Ouais. Bah, c'est ce qu'on attend tous. 20h15, heure de Paris et du Caire, eh bien, émission spéciale sur RFI. Un avant-match très spécial sur l'antenne. Tous les interviews d'ailleurs que vous avez entendues autour de ce match ont été réalisées par Christophe Jousset et Eric Mamrut qui commenteront le match. Il y aura aussi Joseph-Antoine Bell. Antoine Grenier, l'homme de terrain, il sera sur la pelouse. Il verra encore mieux que tout le monde. Et nous vous ferons vivre tout cela sur l'antenne de RFI. Ensuite, eh bien, il y aura Radio Foot et son Facebook Live. Le Facebook Live réalisé par Swell Kedir et par Pierre Lehmann aujourd'hui. Il y avait Alice Ménard à la réalisation, David Finzel est derrière la vitre et évidemment nous avons préparé l'émission ensemble et nous vous donnons donc rendez-vous pour notre deuxième édition et on se dit quoi, que le meilleur
Allez,
gagne
le Sénégal.
Le meilleur gagne.
Vous avez le droit de dire que le meilleur.
En tout cas, que les deux gagnent.
Ça serait bien, hein. Ça serait un monde imaginaire. À très bientôt et à tout à l'heure, bonne finale à tout le monde.
Ils ont négligé trop longtemps. On va les remettre à leur place.